Brassage. Brassage. Le temps qui suivit cette nuit fut pour Roland du temps éclaté, du temps qui n'en fut pas vraiment. Il n'en garda qu'une série d'images, de moments, de conversations sorties de leur contexte, des images qui défilaient comme des valets borgnes, des trois et des neuf, la noire salope de reine de pique à l'occasion, dans un rapide brassage de joueurs professionnels. Plus tard, il demanda à Eddie combien de temps cela avait duré. Eddie n'en savait rien non plus. La notion de temps s'était trouvée anéantie pour l'un comme pour l'autre. Il n'y a pas d'heure en enfer, et chacun d'eux était dans le sien. Roland, dans l'enfer de la fièvre et de l'infection. Eddie, dans celui du sevrage. « Moins d'une semaine, » dit Eddie. « Il n'y a que ça dont je sois sûr. »« Comment tu le sais ?» Je n'avais qu'une semaine de cachet à te donner. Après, c'était à toi seul de prendre une voie ou l'autre. Aller mieux ou mourir. C'est ça. Brassage. Un coup de feu retentit alors que le crépuscule tourne à la nuit. Une détonation sèche qui se greffe sur l'inévitable, inéluctable fracas des brisants venant mourir sur la grève désolée. Kablam! Puis il perçoit dans l'air une odeur de poudre. Problème, se dit faiblement le pistolero. Et à tâtons, il cherche des revolvers qui ne sont plus là. Oh non, c'est la fin, c'est... Mais il n'y a rien de plus. Alors que quelque chose se met à sentir, brassage, bon dans le noir. Quelque chose qui succède à ce long temps de ténèbres et d'absence. Quelque chose qui cuit. Ce n'est pas seulement l'odeur. Il entend les craquements des brindilles, voit danser l'orange pâle d'un feu de camp. À l'occasion, la brise marine rabat sur lui une fumée haute en senteur de résine et cet autre arôme qui lui fait venir l'eau à la bouche. « À manger ?» pense-t-il. « Mon Dieu ! Aurais-je faim ? Si j'ai faim, c'est peut-être que je vais mieux. » Eddie, s'efforce-t-il de dire, mais il n'a plus de voix. Sa gorge lui fait mal, atrocement mal. On aurait dû aussi rapporter de l'astine, se dit-il. Puis il essaie de rire. Toutes les drogues pour lui, et rien pour Eddie. Eddie apparaît. Il a entre les mains une assiette en fer blanc que le pistolero reconnaîtrait n'importe où. Après tout, ne vient-elle pas de sa bourse ? Sont disposés dessus des morceaux de viande blanc-rose d'où monte une vapeur appétissante. « Qu'est-ce que c'est ? » veut-il demander. Rien ne sort à part une espèce de petit couinement. Eddie a lu la question sur ses lèvres. « J'en sais rien, » lui répond-il avec mauvaise humeur. « Tout ce que je sais, c'est que j'en suis pas mort. Mange et fais pas chier. » Il constate qu'Eddie est très pâle, qu'il tremble, qu'il dégage une odeur ou de merde ou de mort, et en déduit qu'Eddie file un mauvais coton. Il tend vers lui une main hésitante, cherchant à le réconforter. Eddie le repousse brutalement. « Je vais te nourrir !» enchaîne Eddie sur le même ton. « Je me demande bien quel honneur. Je devrais plutôt te tuer. » Ça serait fait si je ne m'étais dit que tu avais une chance de réaccéder à mon monde, puisque tu y étais déjà arrivé une première fois. Il regarde autour de lui. Et si je n'avais pas eu peur d'être seul, avec eux ? Ses yeux retournent sur Roland, et une crise de tremblement le saisit, si violente qu'il manque de faire tomber les morceaux de viande de l'assiette. Les tremblements finissent par se calmer. « Mange !» Le pistolero s'exécute. Cette viande n'est pas seulement comestible, elle est délicieuse. Il réussit à en avaler trois morceaux, puis tout se brouille dans un nouvel brassage. Effort de parler, mais il ne peut que chuchoter. L'oreille d'Eddie est collée à ses lèvres, sauf quand, à intervalles plus ou moins réguliers, elle s'écarte en tremblant, parce qu'une nouvelle crise secoue Eddie. Il répète. « Plus au nord, en remontant la plage.
Comment tu le sais?
Je le sais. Voilà tout, chuchote-t-il. Eddie le regarde.
T'es siphonné. Le pistolero sourit et tente de replonger dans l'inconscience, mais Eddie le gifle avec violence. Les yeux bleus de Roland se rouvrent, et pendant un instant, il y a en eux une telle vie, un tel magnétisme, qu'Eddie semble mal à l'aise. Puis les lèvres d'Eddie se retroussent en un sourire qui est avant tout une démonstration de hargne.
« Oui, tu peux t'endormir, » dit-il. « Mais pas avant d'avoir pris ta drogue. C'est l'heure.
Papa, au soleil, ou plutôt, je suppose.
C'est que j'ai jamais été scout, moi. Je ne peux pas certifier qu'il est l'heure, mon gars. Mais l'approximation devrait suffire pour jouer les assistantes sociales. Allez, ouvre la bouche, Roland. Ouvre-la bien grande pour le docteur Eddie, espèce d'enculé de kidnappeur. »
Le pistolero ouvre la bouche comme un bébé à l'approche du sein maternel. Eddie y lâche deux cachets, puis, sans ménagement, y verse de l'eau fraîche.
Roland se dit que cette eau doit venir d'un torrent quelque part dans ces collines à l'est d'ici. Le risque existe que ce soit du poison.
Eddie ne saurait distinguer une eau potable d'une eau qui ne l'est pas. Toutefois, Eddie n'a pas l'air de trop mal se porter.
« Et ai-je vraiment le choix ?» se dit-il. « Non. »
Il avale, tous, s'étrangle presque, tout cela sous le regard indifférent d'Eddie. La main de Roland se tend vers Eddie. Eddie tente de s'écarter. Les yeux du pistolero le lui interdisent. Roland tire Eddie à lui, si près qu'il sent l'odeur de la maladie d'Eddie et qu'Eddie sent l'odeur de la sienne. Le mélange leur fait violence à tous deux, les rend tous deux malades.
« Le choix n'est pas large ici, » murmure Roland. « Je ne sais pas comment c'est chez toi, mais ici, il n'y a qu'une alternative. Rester debout, peut-être vivre, ou mourir à genoux, la tête basse, le nez sur la puanteur de tes aisselles. Très peu. » Il débite au hachoir une canne de toux. « Très peu pour moi. »«
Qui es-tu ?»
lui hurle Eddie.
« Ton destin, » murmure le pistolero. « Pourquoi ne peux-tu simplement aller te faire foutre et crever ?» lui demande Eddie.
Le pistolero essaie d'ajouter autre chose, mais avant de le pouvoir, il se met à dériver toujours plus loin, alors que les cartes en ta main, brassage.
Tadam!
Roland ouvre les yeux sur un milliard d'étoiles qui tournoient dans le noir, puis il les referme.
Il ne sait pas ce qui se passe, mais il pense que tout va bien. Le jeu se déploie toujours, les cartes poursuivent leur brassage.
Encore un de ces délicieux, de ces suaves morceaux de viande. Il se sent mieux. Eddie aussi a l'air mieux, mais non sans avoir également l'air soucieux.
« Ils se rapprochent, » explique-t-il. « Si vilains soient-ils, ils ne sont pas complètement idiots. Ils savent ce que je fais. D'une manière ou d'une autre, ils le savent. Et ça leur plaît pas. Nuit après nuit, ils se rapprochent. Il serait peut-être astucieux de déménager au lever du jour, si t'en es capable. Sinon, ça risque d'être la dernière fois que nous le verrons se lever. »
« De quoi tu parles ?» Plus vraiment un murmure, mais un souffle rauque, intermédiaire entre le chuchotement et la parole normale.
« Deux ?» répond Eddie, montrant la plage.
« À ce que châle, eut ce que chule et toute cette merde. »«
Je crois qu'ils sont comme nous, Roland, toujours prêts à bouffer, mais pas très chaud pour se faire bouffer. »
Dans un total sursaut d'horreur, Roland comprend ce qu'étaient ces morceaux de viande blanc rose qu'Eddie lui a servi. Il reste sans voix, le dégoût lui dérobant le peu qu'il avait réussi à récupérer. Mais sur son visage, le jeune homme voit tout ce qu'il veut dire.
« Comment tu t'imagines que je m'y prenais ?
C'est presque un grognement de rage. Je passais commande d'un plat de homard à emporter.
C'est du poison, chuchote Roland. C'est ça qui m'a...
Ouais, c'est ça qui t'a mis hors de combat.
Mais, mon cher Roland, c'est aussi du hors-d'œuvre. Car pour ce qui est du poison, les serpents à sonnette s'y connaissent et il y a pourtant des gens qui en mangent.
Paraît que c'est bon, comme du poulet. J'ai lu ça quelque part. Moi, j'ai trouvé que ces bêtes-là ressemblaient à des homards, alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? Qu'est-ce qu'on aurait mangé d'autre? Du sable? J'ai dégommé un de ces salopards et je l'ai concocté à la sauce Petit Jésus en culotte de velours. Il n'y avait rien d'autre de toute façon et ça s'est révélé rudement goûteux. J'en descends un chaque soir, juste après le coucher du soleil. Ils sont pas très vifs tant qu'il ne fait pas complètement noir. Je ne t'ai jamais vu refuser ce que je t'apportais. Eddie sourit. Ça me plaît de me dire que dans l'eau, j'ai peut-être chopé un de ceux qui ont bouffé Jake. Ça me fait jouir de penser que je suis en train de bouffer ce connard. Ça me tranquillise l'esprit, en quelque sorte, tu vois.
L'un d'eux a aussi des morceaux de moi dans le corps, dit Roland dans son fantôme de voix. Deux doigts et un orteil.
Ça aussi, c'est cool.
Eddie continua de sourire. Son visage était très pâle, quelque chose d'un requin. Mais il n'a plus autant mauvaise mine. Cette odeur de merde et de mort qui flottait autour de lui comme un linceul semble s'être dissipée.
À te faire foutre, s'éraille le pistolero.
Voyez-vous ça? S'exclame Eddie. Roland qui reprend du poil de la bête. En fin de compte, tu vas peut-être pas mourir.
Eh ben, mon cher, je trouve ça fantastique.
« Vivre, dit Roland. » Sa voix blanche de nouveau murmure, les hameçons revenus se planter dans la gorge.
« Ouais ?»
Eddie le regarde, puis hoche la tête et répond à sa propre question.
« Ouais. Je pense que c'est ton intention. À un moment, je me suis dit que tu étais en train de lâcher la rampe, à un autre que c'était déjà fait. Maintenant, il me semble que tu es sur la bonne voie. Les antibiotiques, ils sont pour quelque chose, bien sûr, mais c'est surtout parce que tu as décidé de te prendre par la main, à mon sens. »
Le problème, c'est pourquoi? Pourquoi te décarcasses-tu à ce point pour rester en vie sur cette plage merdique?
La tour dessine les lèvres de Roland parce qu'il n'est même plus question pour lui d'émettre un son.
Toi et ta putain de tour, lâche Eddie qui se détourne, s'apprêtant à partir, puis refait face à Roland, surpris de sentir la main de celui-ci se refermer sur son bras comme une paire de menottes. Il se regarde dans les yeux, puis Eddie s'incline.
« D'accord. C'est d'accord. »«
Vers le nord, » articule en silence le pistolero. « Vers le nord, t'ai-je dit. »
Que lui a-t-il dit? Il en a l'impression, mais le souvenir s'est perdu. Perdu dans le brassage.
« Comment tu peux le savoir ?»
lui braille Eddie soudain frustré. Il lève les poings comme pour frapper Roland, puis il les baisse.
Je le sais, voilà tout, alors cesse de me faire perdre mon temps et mon énergie avec des questions stupides, a-t-il envie de répondre. Mais avant qu'il n'en ait le loisir, les cartes reprennent leur brassage. Traîné, ballotté, cahoté, sa tête désemparée heurtant tour à tour un côté puis l'autre, arrimé par ses propres ceinturons sur quelque espèce de travois mal fichu. Et la chanson d'Eddie Dean, si étrangement familière qu'il croit d'abord rêver, être en proie au délire. « Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. »
« D'où la connais-tu » a-t-il envie de demander.
« M'as-tu entendu la chanter ? » ?»« Et où sommes-nous ?»
Avant qu'il puisse s'enquérir de quoi que ce soit.
Brassage. Corte défoncerait la tête au gamin s'il voyait ce bricolage, pense Roland, à la vue du travois sur lequel il a passé la journée. Puis il rit. Ça ne ressemble guère à un rire. On croirait plutôt l'une de ces vagues qui déversent leur charge de galets sur la grève. Il ne sait pas quelle distance ils ont parcouru, mais c'est bien assez pour qu'Eddie soit complètement veiné. Il est assis sur un rocher dans la lumière qui s'étire. L'un des revolvers du pistolero sur ses genoux,
une autre à moitié vide en bandoulière. Quelque chose fait une petite bosse dans sa poche de chemise. Ce sont les balles rangées à l'arrière des ceinturons. La réserve de bonnes balles qui diminue à vue d'œil. Eddie les a nouées dans un morceau de sa propre chemise. La raison majeure qu'a cette réserve de diminuer si vite est que, toutes les quatre ou cinq balles, il s'en trouve une pour refuser de partir. Eddie, qui a été à deux doigts de s'assoupir, relève maintenant la tête.
« Qu'est-ce qui te fait rire ?»
demande-t-il. Le pistolero lui fait signe que c'est sans importance, parce qu'il se trompe en fait. Cort n'aurait jamais levé la main sur Eddie à cause du travois, si bizarrement fichu, si bancal fût ce truc. Roland croit même possible que Cort ait pu grogner un vague compliment, et c'était si rare avec lui que celui à qui il l'adressait ne savait presque jamais quoi répondre, et restait bouche bée, comme un poisson frais sorti du baril. Deux branches de peuplier en constituent les montants. Elles sont de longueur et d'épaisseur approximativement égales et doivent avoir été abattues par le vent. Eddie s'est servi de branches plus petites comme traverses et a procédé à leur assemblage par des moyens hétéroclites, pour ne pas dire loufoques, mettant à contribution les ceinturons, la bande enduite de glu qui avait maintenu les sacs de poudre du diable contre ses flancs, ainsi que les lacets de ses adidas, jusqu'à la cordelette de boyau du chapeau de Roland. Et par-dessus l'ensemble, il a disposé la couverture. Cort ne l'aurait pas cogné, parce que, dans l'état où il était, Eddie avait au moins réussi à faire plus que s'asseoir sur les talons, la tête entre les mains, pour gémir sur son sort. Il avait fait quelque chose. Il avait essayé. Et Cort l'aurait peut-être gratifié d'un de ses compliments bourrus, presque hargneux même, parce que, si branque en soit l'aspect, le bricolage paraissait efficace. Les longues traces qui s'étiraient derrière eux sur la grève jusqu'au point où elles semblaient se rejoindre en étaient la preuve.
« T'en vois un ?» demanda Eddie.
Le soleil descend, déroulant un chemin d'or rouge en travers des flots, et le pistolero se rend alors compte qu'il a pour le moins dormi 6 heures d'affilée cette fois. Il se sent plus solide. Il s'assoit et regarde l'océan. Ni la plage, ni les terres qui montent se fondre dans le versant occidental des montagnes n'ont beaucoup changé. S'il relève de faibles variations dans le paysage et dans les détritus, un cadavre de mouette, par exemple, petit tas de plumes ébouriffé à une vingtaine de mètres sur sa gauche, une trentaine en direction de l'eau, rien ne lui donne vraiment l'impression d'avoir avancé.
« Non, » dit-il. « Ah, si, j'en vois un. »
Il tend son bras. Eddie plisse les yeux puis hoche la tête. Alors que le soleil sombre de plus en plus bas et que l'or du chemin se fait de plus en plus sang, les premières omarstruosités s'extraient des vagues et commencent à se répandre sur la plage. Deux d'entre elles se lancent dans une maladroite course de vitesse vers la mouette morte. La première arrivée bondit dessus, l'ouvre d'un coup de pince et se met à enfourner les restes en putréfaction dans son étrange bec denté.
« Est-ce que chic ?» demande-t-elle.
« Est-ce que chule ?» répond la perdante. « Oh, ce que... Kablam !»
Le revolver de Roland met fin aux questions de la deuxième créature. Eddie descend la ramasser. Il la saisit par le dos en gardant un œil sur sa collègue, laquelle n'y voit aucun inconvénient, occupée qu'elle est avec le cadavre de l'oiseau. Eddie rapporte sa prise. Elle se tortille encore, haussant et baissant ses pinces, mais ne tarde pas à y renoncer. Sa queue s'arc une dernière fois, puis retombe simplement au lieu de fouetter l'air en sens inverse. Les pinces de boxeur pendent lamentablement.
« Le dîner sera bientôt servi, monsieur, » dit Eddie. « Monsieur a le choix entre filet d'horreur à carapace et filet d'horreur à carapace. Monsieur se sent-il tenté plutôt par l'un ou l'autre ?»«
Que veux-tu dire ?»«
Monsieur m'a parfaitement compris, » rétorque Eddie.
« Où est passé ton sens de l'humour, Roland ?»«
Il a dû se faire tuer dans une guerre ou une autre. »
Réponse qui fit sourire Eddie. Tu m'as l'air d'être un peu plus en forme ce soir.
Oui, c'est aussi mon impression.
Bon, alors tu pourras peut-être marcher un moment demain. Pour parler franc, l'ami, te traîner, c'est la croix et la bannière.
Je ferai un effort.
C'est tout ce qu'on te demande.
Toi aussi, tu as l'air mieux. Hasard de Roland, et sa voix se brise sur la fin comme celle d'un gosse qui mue. Si je ne m'arrête pas de parler, pense-t-il, je vais me retrouver définitivement à Faune.
Oui, je crois que je vais survivre.
Il pose un regard vide sur Roland.
Par deux fois, pourtant, tu ne peux pas t'imaginer à quel point ça n'est pas passé loin. La première fois, quand j'ai pris ton pistolet, que je me le suis appliqué contre la tempe. Je l'ai armé, je l'ai tenu comme ça un moment, puis je l'ai écarté. J'en ai ramené le chien au repos et je l'ai remis dans son étui. L'autre, c'est quand j'ai eu des convulsions une nuit. Je crois que c'était la deuxième nuit, mais j'en suis pas sûr. Il secoue la tête et ajoute quelque chose que le pistolero ne comprend pas tout en n'y voyant pas mystère. Le Michigan me fait l'effet d'un rêve à présent.
Et bien que la voix de Roland se soit de nouveau réduite à ce bruissement de feuilles mortes et qu'il ait conscience qu'il vaudrait mieux pour lui de ne pas parler du tout, il lui reste une chose à savoir.
Qu'est-ce qui t'a retenu de presser la détente ?
Je n'ai pas d'autre gin, répond bizarrement Eddie. Puis il s'explique.
À la dernière seconde, je me suis dit que si je la pressais et que ce soit une de ces putains de balles qui ne partent pas, je n'aurais pas le courage de recommencer. Car une fois que t'as chié dans ton froc, faut que tu le laves tout de suite. Ou alors, tu vis avec l'odeur pour toujours.
C'est Henry qui m'a dit ça. Il l'avait appris au Vietnam. Et comme c'était la nuit, et qu'Omar était sorti sur le bord de mer avec tous ses copains, mais le pistolero est déjà plié de rire, même si de temps à autre, ce sont des grincements inquiétants qui s'échappent de sa gorge. S'autorisant un petit sourire, Eddie reprend.
« Je crois que dans cette guerre, t'as pas perdu ton sens de l'humour plus haut que le coude. »
Puis il se lève, s'apprête apparemment à grimper la pente, là où il pourra trouver du bois pour faire du feu.
« Attends !» murmure Roland. Eddie se retourne. « Pourquoi, en fait ?»«
Parce que t'as besoin de moi, je suppose. Si je m'étais fait sauter la cervelle, tu serais mort. Plus tard, quand tu seras remis, je réexaminerai peut-être mes options. »
Il jette un regard circulaire sur le paysage et pousse un soupir à fendre l'âme.
Il se peut qu'il y ait un Disneyland quelque part dans ton monde, Roland. Mais ce que j'en ai vu jusqu'à présent est loin de m'emballer.
Il repart, s'arrête, se retourne encore une fois. Son visage est lugubre, quoique la pâleur maladive l'ait quelque peu quitté. Les tremblements se sont réduits à des frissons sporadiques.
Il y a des moments où tu ne me comprends pas, hein ?
Oui, murmure le pistolero. Par moments.
Bon, je vais être plus clair. Il y a des gens qui ont besoin que les gens aient besoin d'eux. Si tu ne me comprends pas, c'est parce que tu n'es pas de ceux-là. Tu te servirais de moi pour me jeter ensuite comme une vieille chaussette s'il le fallait. Mais Dieu t'a baisé, mon ami. Il t'a donné assez de jugeote pour que tu souffres d'agir comme ça et assez de stoïcisme pour que tu passes outre et que tu le fasses quand même. Tu ne pourrais pas t'en empêcher. Je serais couché là, sur cette plage, hurlant pour que tu m'aides. Tu me passerais sur le corps si tu n'avais pas d'autre chemin pour atteindre ta putain de tour. Est-ce que je me trompe ?
Roland ne répond pas, ne fait que regarder Eddie.
Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont besoin que d'autres aient besoin d'eux. Comme dans la chanson de Barbara Streisand. Rebattu, mais vrai. Juste une autre façon d'être accro.
Il fixe Roland.
Mais toi, bien sûr, t'es au-dessus de ça.
Roland l'observe. Sauf pour ta tour, achève Eddie sur un petit rire grinçant.
T'es accro à la tour, Roland. Quelle guerre était-ce ?
Murmura Roland.
Hein ?
Cette guerre où tu t'es fait dégommer ton sens de la noblesse et de la quête.
Eddie recule comme si Roland l'avait giflé. Je vais aller chercher de l'eau, dit-il. Garde un œil sur les horreurs à carapace. On a fait un bon bout de chemin aujourd'hui, mais je ne sais toujours pas si elles ont un vrai langage.
Puis, pour de bon, il tourne le dos à Roland, mais pas avant que celui-ci n'ait vu ses joues baignées de larmes accrocher les ultimes rayons du soleil couchant.
Roland aussi se tourne. Il se tourne vers la grève et regarde. Les homarstruosités vont et viennent en posant leurs questions, posent leurs questions, cependant qu'elles vont et viennent, mais sans qu'aucun de ces mouvements semble avoir un but. Elles sont certes douées de quelque intelligence, mais pas à un niveau suffisant pour communiquer entre elles.
« Dieu ne te le crache pas toujours en pleine gueule, » songe Roland,
« la plupart du temps, mais pas toujours. »
Eddie revient avec le bois.
« Alors, s'enquiert-il, où t'en es, tes pensées ?»«
Je me disais qu'on était très bien ici, » croasse Roland.
Eddie commence à dire quelque chose, mais le pistolero est fatigué. Il se recouche, regarde les premières étoiles clouter le dais violacé du ciel et,
passage,
dans les 3 heures qui suivirent, l'état du pistolero ne cessa de s'améliorer. Les lignes rouges sur son bras commencèrent par inverser leur progression, puis s'estompèrent et disparurent. Le premier jour, comme prévu, tantôt il marcha, tantôt il se laissa tirer par Eddie. Le jour suivant, le travail devint inutile. Ils n'eurent d'autre précaution à prendre que de s'arrêter toutes les 1 ou 2 heures, le temps que la sensation cotonneuse quitta ses jambes. Ce fut durant ces périodes de repos et dans celles comprises entre leur repas du soir et l'extinction des dernières braises préludant au sommeil qu'il en apprit un peu plus sur Eddie et son frère. Il se rappela s'être demandé ce qui avait pu rendre leur relation si complexe, voire conflictuelle. Mais après que le jeune homme eut amorcé son récit hésitant, sous-tendu par cette hargne rancunière qui naît des grandes douleurs, Roland aurait pu l'arrêter net, aurait pu lui dire « Ne t'en fais pas, Eddie, je comprends tout. » Sauf que ça n'aurait fait aucun bien, Eddie. Le jeune homme ne parlait pas pour venir en aide à son frère, puisque son frère était mort. Il parlait pour enterrer définitivement Henry. Et aussi pour se remettre en mémoire que si Henry était mort, lui ne l'était pas. Le pistolero l'écouta donc en silence. Le fond du problème était simple. Eddie croyait avoir volé la vie de son frère, et celui-ci aussi l'avait cru. Conviction qui pouvait avoir germé seule dans l'esprit de Henry, comme il pouvait l'avoir faite sienne à force d'entendre leur mère sermonner Eddie, lui répéter combien elle et Henry s'étaient sacrifiés pour lui, pour qu'il soit aussi protégé que possible dans la jungle de la cité, pour qu'il soit heureux, aussi heureux que possible dans cette jungle de la cité, pour qu'il ne finisse pas comme sa pauvre grande sœur dont il n'avait peut-être même pas vraiment gardé souvenir, mais qui avait été si belle, Dieu la protège dans sa grâce éternelle. Célina était avec les anges, et c'était à coup sûr un endroit merveilleux. Mais elle ne voulait pas qu'Eddie la rejoigne tout de suite, qu'il se fasse écraser par un dingue de chauffard imbibé d'alcool comme sa sœur, ou qu'un dingue de junkie lui troue la peau pour les malheureux 25 cents qu'il avait en poche et l'abandonne trip à l'air sur le trottoir. Et parce qu'il ne pensait pas qu'Eddie ait l'envie d'être tout de suite avec les anges, elle lui conseillait d'écouter son grand frère, de faire ce que son grand frère lui disait de faire et de toujours se rappeler qu'Henry se sacrifiait pour lui par amour. Eddie exprima au pistolero ses doutes sur la connaissance que sa mère avait eue de certaines choses qu'ils avaient faites ensemble, Henry et lui, comme de piquer des illustrés chez le marchand de bonbons de Rincon Avenue ou de fumer en cachette derrière l'atelier de galvanoplastie de Cowhall Street. Une fois, ils étaient tombés sur une Chevrolet avec les clés sur le tableau de bord. Et bien qu'Henry eût à peine su conduire, il avait alors 16 ans et son frère 8, il avait poussé Eddie dans la voiture en lui disant qu'ils allaient descendre à New York. Eddie était mort de trouille et pleurait. Henry aussi avait peur et il était en colère contre Eddie, lui répétant de la fermer, d'arrêter de chialer comme un mioche, qu'il avait 10 $ en poche et qu'Eddie en avait 3 ou 4, qu'ils allaient passer la journée au cinéma, puis qu'ils prendraient le métro et seraient rentrés avant que leur mère ait eu le temps de mettre la table pour le souper et de se demander où ils étaient. Mais Eddie continuait de pleurer. Et juste avant d'atteindre le Queensborough Bridge, ils avaient reconnu au passage une voiture de police dans une rue transversale, et bien que certain que le chauffeur n'avait même pas eu les yeux tournés dans leur direction, Eddie avait répondu « Ouais », quand Henry lui avait demandé, la voix rauque et tremblotante, s'il pensait que le flic les avait vus. Henry avait pâli et pilé si sec qu'il s'était presque payé une borne d'incendie. 2 secondes plus tard, il cavalait sur le trottoir, alors qu'Eddie, tout aussi paniqué que lui maintenant, restait à se battre avec la poignée peu familière de la porte. Henry avait fait demi-tour, libéré son petit frère, lui avait aussi expédié un aller-retour, puis rentré à pied, traîné en fait, jusqu'à Brooklyn, leur avait pratiquement pris l'après-midi, et quand leur mère avait voulu savoir pourquoi ils étaient en nage et avaient l'air si crevés, Henry lui avait dit avoir passé la journée à apprendre à Eddie une technique de basket sur le terrain derrière l'immeuble. Puis que des loubards s'étaient pointés et qu'ils avaient dû courir. Leur mère avait embrassé Henry et tourné vers Eddie un visage rayonnant. Elle lui avait demandé s'il n'était pas le meilleur grand frère qui fût au monde. Eddie avait répondu que si, et n'avait pas eu à se forcer, il le pensait.
« Il avait autant la trouille que moi ce jour-là, » dit Eddie à Roland, alors qu'il contemplait les dernières lueurs du jour, abandonnant les flots. Cette masse d'eau bientôt ne se reflèterait d'autre clarté que celle des étoiles. Plus même, il croyait que ce flic nous avait vus, alors que je savais bien que non. C'est pour ça qu'il a couru. Mais il est revenu me chercher. C'est ça qui compte. Il est revenu.
Roland resta silencieux.
Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois?
Il posa sur Roland un regard âpre, interrogateur.
Je vois. Il avait toujours peur, mais il est toujours revenu.
Roland songea qu'il aurait peut-être été préférable pour Eddie, si ce n'était pour tous les deux à long terme, qu'Henry eût continué de prendre ses jambes à son cou ce jour-là, ou n'importe quel autre jour. Mais les gens comme Henry ne faisaient jamais ça. Les gens comme Henry revenaient toujours parce que les gens comme Henry savaient se servir de la confiance. C'était bien la seule chose dont les gens comme Henry connaissaient le mode d'emploi. Ils commençaient par transformer la confiance en besoin, puis ils transformaient le besoin en drogue, et cela fait. Ils... Quel était le mot dédié pour ça? Ah oui, dealer. Il la dealait.
Bon, dit le pistolero, je crois que je vais me pioter.
Le lendemain, Eddie poursuivit son récit, mais Roland savait déjà tout. Au lycée, Henry n'avait jamais joué dans aucune équipe parce qu'il n'était pas question de rester le soir pour l'entraînement. Il lui fallait s'occuper d'Eddie. Qu'il fût malingre, affligé d'une coordination douteuse et sans passion particulière pour le sport, n'avait bien sûr rien à voir là-dedans. Henry aurait fait un extraordinaire lanceur au baseball, ou un de ces basketteurs qui semblent s'envoler vers le filet, leur certifier leur mère 10 fois plutôt qu'une. Henry collectionnait les mauvaises notes, et avait à redoubler pas mal de matière, mais ce n'était pas qu'il fût bête. Eddie et Madame Dean savaient l'un comme l'autre Henry aussi fin que vif. Mais Henry devait consacrer à la garde d'Eddie le temps qu'il aurait dû passer à lire ou à faire ses devoirs. Que cette abnégation fraternelle eût d'ordinaire pour cadre le salon des dînes avec les 2 gamins vautrés sur le canapé devant la télé ou par terre à se bagarrer pour rire n'avait apparemment aucune importance. Côté études supérieures, les sales notes avaient réduit le choix à la seule université de New York. Ce qu'il n'avait pu se permettre parce que les mêmes notes compromettaient tout espoir de bourse. Et puis, Henry s'était retrouvé sous les drapeaux. Et ça avait été le Vietnam, où Henry avait perdu la moitié de son genou. La douleur était atroce. Ce qu'on lui avait donné pour la calmer. De la morphine base.
On l'avait sevré et à peine remis, mais le repos avait dû être fait à la va-vite parce qu'Henry était rentré à New York avec sa guenon sur le dos. Une guenon affamée qui attendait ses rations, et au bout d'un mois ou deux, il était sorti voir un type, et 4 mois plus tard environ, 3 semaines au plus après la mort de leur mère, Eddie avait pour la première fois vu son frère priser sur une petite glace une ligne de poudre blanche. Il avait pensé à de la coke. Ça s'était révélé être de l'héroïne. Et si on prenait toute l'histoire en sens inverse, à qui la faute ? Roland ne dit rien, mais entendit la voix de Cort. « La faute est toujours au même endroit, mes bébés, chez celui qui est assez faible pour ne pas vouloir l'assumer. » Passé le choc initial, Eddie était entré dans une rage noire. Henry y avait répondu non par la promesse d'arrêter, mais en disant à Eddie qu'il ne lui reprochait pas de se mettre en colère, qu'il savait que le Vietnam avait fait de lui une loque, qu'il était faible, qu'il s'en irait, que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Qu'Eddie avait raison, qu'avoir un sale junkie dans les pattes était bien la dernière chose dont son petit frère eut besoin. Il espérait seulement qu'Eddie ne lui en voudrait pas trop. Il était faible, il le reconnaissait. Quelque chose au Vietnam l'avait rendu comme ça, l'avait pourri de la même manière que l'humidité pourrissait les lacets de vos baskets ou l'élastique de votre slip. Car il y avait aussi au Vietnam quelque chose qui apparemment vous pourrissait le cœur, lui dit Henry en larmes. Il espérait seulement qu'Eddie se souviendrait de toutes les années où il avait tenté d'être fort. Pour Eddie, pour maman. Henry essaya donc de quitter la maison. Eddie, bien sûr, ne le laissa pas faire. Il était rongé de remords. Il avait vu l'horreur couturée de cicatrices qui était devenue cette jambe autrefois normale autour d'un genou désormais plus fait de téflon que d'os. Il en résulta une confrontation sonore sur le palier. Henry en vieux treillis, son paquetage à la main et des cernes violets sous les yeux. Eddie, sans rien d'autre sur lui qu'un caleçon douteux. Henry disant
« Tu n'as pas besoin de moi dans le secteur, Eddie. Je suis à fuir, comme la peste, et je le sais. »
Eddie, braillant en réponse
« Tu n'iras nulle part. Il n'en est pas question. Ramène ton cul immédiatement. »
Et ainsi de suite, jusqu'au moment où Mme McGursky était sortie de chez elle pour crier
« Tu pars ou tu restes, pour moi c'est bonnet blanc, blanc bonnet, mais tu te décides en vitesse ou j'appelle la police !»
Alors qu'elle ne paraissait pas avoir épuisé son stock de remontrances, elle s'aperçut soudain dans quelle tenue était Eddie et ajouta
« Et tu es indécent, Eddie Dean !»
avant de disparaître comme un diable rentrant dans sa boîte. Eddie regarda Henry. Henry regarda Eddie.
Elle a l'air d'un ange, mais c'est le diable déguisé, fredonna Henry à voix basse, et tous deux tombèrent dans les bras l'un de l'autre, hurlant de rire, se bourrant les côtes, et Henry réintégra l'appartement.
15 jours plus tard environ, Eddie sniffait aussi et ne pouvait comprendre pourquoi il en avait fait un tel fromage. Ça n'était que sniffer après tout, et comme disait Henry, dans lequel Eddie allait finir par voir le grand, sage et éminent junkie, dans un monde qui de toute évidence fonçait vers l'enfer tête baissée, qu'y avait-il de si bas à vouloir planer ? Du temps avait passé, Eddie ne précisa pas combien. Le pistolero s'abstint de le lui demander. À son sens, Eddie savait qu'il existait un millier de bonnes excuses pour planer, mais pas une seule raison valable, et il avait joliment réussi à contrôler sa consommation. Henry aussi s'était débrouillé pour contrôler la sienne. Pas aussi bien que son petit frère, mais assez pour ne pas sombrer. Car qu'Eddie ait ou non entrevu la vérité, au fond, pensait Roland, il avait dû la connaître. Henry ne pouvait qu'avoir compris. Leur rapport s'était inversé. Maintenant, c'était Eddie qui prenait Henry par la main pour traverser la rue. Vint le jour où Eddie surprit Henry non plus avec une pipette dans la narine, mais avec une aiguille dans le bras. Suivit une nouvelle discussion hystérique, calque presque exacte de la première, à ceci près qu'elle eut pour cadre la chambre d'Henry. Le dénouement non plus n'offrit guère de variante. Henry, pleurant et recourant à son implacable, inattaquable système de défense, l'absolue reddition, la totale reconnaissance des faits. Eddie avait raison, il était indigne de vivre, n'était même pas digne de se nourrir d'ordures ramassées dans le caniveau. Il allait partir. Eddie n'aurait plus à supporter sa vue. Il espérait seulement qu'Eddie se souviendrait de toutes les... Le récit se fondit en une sorte de bourdonnement peu différent de celui des graviers roulés par le ressac. Roland connaissait l'histoire et ne dit rien. C'était Eddie qui ne la connaissait pas. Un Eddie qui, pour la première fois depuis 10 ans, ou peut-être plus, avait l'esprit clair. Eddie ne racontait rien à Roland. Eddie se racontait en fin de compte cette histoire à lui-même. C'était parfait. Pour autant que put en juger le pistolero, le temps était une chose dont il ne manquait pas. Parler était une manière comme une autre de le tuer. Le genou d'Henry l'obsédait, expliqua Eddie. Et les noueux torrents de la cicatrice, tant sur la cuisse que sur la jambe. Tout ça guérit, bien sûr. Henry ne boitait qu'à peine, sauf lors des engueulades avec Eddie, où sa claudication semblait toujours plus prononcée. L'obsédait, toujours. Comme le hantait aussi tout ce à quoi Henry avait renoncé pour lui. Et puis il y avait une autre obsession, beaucoup plus terre à terre. Henry ne devait pas traîner dans les rues. Il y aurait été comme un petit lapin lâché dans une jungle pleine de grands tigres. Abandonné à lui-même, Henry se serait retrouvé en tôle ou à l'asile en moins d'une semaine. Eddie avait donc supplié et fini par obtenir d'Henry qu'il restât. Et 6 mois plus tard, Eddie lui aussi jouait l'homme au bras d'or. À dater de cet instant, les choses avaient entamé la régulière et inéluctable spirale descendante qui s'était achevée par le voyage d'Eddie aux Bahamas et sur la soudaine intervention du pistolero dans sa vie. Un autre que Roland, moins pragmatique et plus enclin à l'introspection, se serait sans doute demandé, ou bien l'aurait demandé à voix haute, « Pourquoi lui ? Pourquoi cet homme en premier ?» Pourquoi quelqu'un qui semblait promettre faiblesse, anormalité, voire malédiction pure et simple? Question que le pistolero non seulement ne se posa jamais, mais qui jamais ne lui germèrent dans l'esprit. Cuthbert les aurait posées. Cuthbert avait des questions sur tout, en avait été infesté, était mort avec une ultime question à la bouche. Ils étaient tous morts. Les derniers pistoleros de Court. Les 13 survivants d'une classe dont l'effectif initial avait été de 56. Tous morts, sauf Roland. Il était le tout dernier, poursuivant obstinément sa route dans un monde qui s'était éventé, qui s'était fait vide et stérile. 13, avait dit Court la veille des cérémonies de la présentation. C'est un chiffre de mauvais augure. Et le lendemain, rompant avec 35 années d'observance des traditions, Court n'y avait pas assisté. Sa dernière couvée s'était rendue chez lui pour s'agenouiller à ses pieds, lui présenter sa nuque à nu, puis se relever, recevoir de lui le baiser de la félicitation et lui accorder l'honneur de charger leurs armes pour la première fois. 9 semaines plus tard, Court était mort. Empoisonné, avaient prétendu certains. 2 ans après, la finale et sanglante guerre civile avait éclaté. La rouge lame de fond des massacres et des pillages avait atteint l'ultime bastion de la civilisation, de la lumière et de la raison, pour balayer tout ce qui leur avait paru impérissable, avec la même aisance qu'une simple vague noyant le château d'un gamin sur la plage. Il était donc le dernier, et ne devait peut-être d'avoir survécu qu'à la prééminence de son sens pratique et de sa simplicité sur le ténébreux romantisme de sa nature. Il comprenait que 3 choses seules comptaient. La mort, le cas et la tour. C'était assez pour occuper les pensées d'un homme. Eddie termina son récit en milieu d'après-midi, le 3e jour de leur progression vers le nord sur cette grève monotone. La plage même semblait immuable, et pour avoir le sentiment d'avancer, il fallait porter ses regards sur la gauche, vers l'est. Là, les sommets déchiquetés des montagnes avaient commencé à s'adoucir. à s'affaisser. Modérément, certes, mais laissant entrevoir que, beaucoup plus loin, il ne subsistait plus qu'un moutonnement de collines. Son histoire racontée, Eddie sombra dans le silence, et ils marchèrent sans parler une demi-heure durant, sinon plus. Eddie ne cessait de jeter à Roland des petits coups d'œil à la dérobée sans soupçonner qu'ils fussent perçus, tant le jeune homme était encore perdu dans ses pensées. Outre ses regards furtifs, Roland percevait chez Eddie une attente. Et il savait laquelle. L'attente d'une réponse. D'une réponse de quelque type que ce soit. N'importe quelle réponse. Par deux fois, Eddie n'ouvrit la bouche que pour la refermer. Finalement, il posa cette question que le pistolero était, il n'en avait jamais douté, voué à entendre. Finalement, il posa cette question que le pistolero était, il n'en avait jamais douté, voué à entendre. Alors, qu'est-ce que t'en penses ?
J'en pense que t'es ici.
Eddie se planta les poings sur les hanches.
C'est tout ? Je n'en sais pas plus.
Ses doigts et son orteil manquant se rappelaient à son souvenir. Élancement et démangeaison qui lui faisaient regretter de n'avoir pas emporté plus d'astine du monde d'Eddie.
Tu n'as même pas une opinion sur ce que tout ça signifie ? Insista ce dernier.
Roland aurait pu montrer sa main droite infirme et dire « Pense plutôt à la signification de ça, triple crétin. » Mais pareille réplique ne lui vint pas plus à l'esprit que de demander pourquoi, sur la population totale de l'intégralité des univers possibles, il avait fallu que ce soit Eddie qu'il tira.
« C'est le cas, » dit-il, tournant vers Eddie une expression patiente.
« C'est quoi, le cas ?»
Il entendit l'agressivité dans la voix d'Eddie.
« Première fois que j'entends ce mot. À part que si tu le dis deux fois de suite, ça devient ce que les gosses disent pour désigner la merde. »«
C'est un sens que j'ignore, » répondit le pistolero. « Ici, cas veut dire devoir ou destin, ou encore, dans l'usage courant, un endroit où tu dois te rendre. »
Eddie se débrouilla pour avoir l'air à la fois consterné, écœuré et amusé.
Alors dis-le deux fois, Roland, parce que, au gosse à qui tu parles, des mots comme ça n'évoquent pas autre chose que de la merde.
Le pistolero haussa les épaules.
Je n'ai compétence ni en philosophie ni en histoire et je me borne à constater que ce qui est derrière et ce qui est devant, devant. Et cette deuxième partie est du ressort du cas. Qui se suffit à lui-même.
« Ah bon ?» Eddie se tourna vers le nord.
« Moi, tout ce que je vois devant, c'est au bas mot 9 milliards de kilomètres de cette même putain de plage. Alors, si c'est ça dont tu parles, K et caca sont effectivement synonymes. Car si on n'a peut-être pas encore assez de bonnes balles pour refroidir 5 ou 6 autres de nos copains à pinces, on en sera encore réduit à les dégommer à coups de pierre. Donc... « Où allons-nous ?»
Roland se demanda, fugitivement mais quand même, si c'était une question qu'Eddie avait jamais pensé poser à son frère. Mais vouloir tirer ça au clair maintenant n'aurait fait que déclencher une discussion stérile. Aussi se contenta-t-il de basculer son pouce vers le nord en disant
« Là, pour commencer. »
Le regard d'Eddie se porta dans la direction indiquée pour n'y découvrir que l'uniforme étendu de galets gris mêlés de coquillages ponctués de rochers. Toutefois, alors qu'il se retournait vers Roland, le sarcasme au bord des lèvres, il vit ses traits baignés d'une sereine certitude. Aussi regarda-t-il de nouveau. Il plissa les yeux, plaça la main dans le prolongement de sa joue pour se les abriter du soleil couchant. Il voulait désespérément voir quelque chose, n'importe quoi, merde, même un mirage aurait fait l'affaire, mais il n'y avait rien de rien.
« Raconte-moi tout ce que tu veux comme salade, » fit Eddie en détachant ses mots. mais laisse-moi libre d'y voir un putain de tour de cochon. Je te rappelle que j'ai risqué ma vie pour toi chez Balazar. »
J'en suis conscient. Le pistolero sourit, rareté qui lui illumina le visage comme une brève éclaircie dans la grisaille d'une journée maussade. C'est pourquoi je n'ai pas cessé d'être franc avec toi, Eddie. Il y a quelque chose là-bas. Voilà une heure que ça m'est apparu. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait seulement d'un mirage, que je prenais mon désir pour une réalité. Mais c'est là. Pas de problème.
Une fois de plus, Eddie s'usa les yeux, se les usa jusqu'à les avoir débordant de larmes.
« Je ne vois rien !» finit-il par dire. « Rien d'autre que cette plage !»
Et pourtant, j'ai 10/10 d'acuité visuelle.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire que s'il y avait quelque chose à voir, je le verrais.
Mais il avait des doutes, se demandait sur quelle distance ses yeux bleus de tireur d'élite pouvaient voir plus loin que les siens. Courte, peut-être. Peut-être énorme.
Tu finiras par la voir, dit le pistolero.
Par voir quoi, nom de Dieu ?
Nous ne l'atteindrons pas aujourd'hui, mais si tu as une aussi bonne vue que tu le dis, tu peux être sûr de la voir avant que le soleil ne soit au ras des flots. À moins que tu ne préfères rester ici à bouder.
Le cas, fit Eddie comme en un rêve.
Roland hocha la tête.
Le cas.
Caca, dit Eddie, qui éclata de rire.
« Allez, Roland, on fait un pari.
Si je n'ai toujours rien vu avant le coucher du soleil, tu me paies un poulet frites pour le dîner. Ou un Big Mac, ou n'importe quoi, du moment que c'est pas du homard. »
« Allons-y. »
Ils se remirent en marche, et au bas mot, une bonne heure avant que l'arc inférieur du soleil ne touche à l'horizon, Eddie commença d'entrevoir une forme au loin. C'était flou, miroitant, indéfinissable, mais nettement reconnaissable comme quelque chose de nouveau.
D'accord, dit-il.
J'ai vu. Mais tu dois avoir les yeux de Superman.
De qui ?
Laisse tomber. Tu sais que tu représentes un cas vraiment phénoménal de décalage culturel ?
« Hein ?»
Eddie éclata de rire. « Laisse tomber. Dis-moi plutôt, qu'est-ce que c'est ce truc là-bas ?»«
Tu verras bien. »
Et Roland redémarra, coupant court à toute autre question. 20 minutes plus tard, Eddie pensa avoir vu. Un quart d'heure après, ce fut une certitude. 3 kilomètres, sinon 5, l'en séparaient encore, mais il savait ce que c'était.
Une porte, bien sûr. Une autre porte.
Ni l'un ni l'autre ne dormit vraiment bien cette nuit-là. Ils furent debout et en route une heure avant que l'aube ne dessinât la silhouette érodée des montagnes et atteignirent la porte à l'instant même où perçaient, sereins et sublimes, les premiers rayons du soleil matinal. Leurs joues mal rasées s'embrasèrent comme des lampes. Le pistolero fit de nouveau ses 40 ans. Eddie, guère plus que quand Roland avait combattu Cort avec David pour arme. Cette porte ressemblait en tout point à la première, hormis pour l'inscription.
La Dame d'Ombre.
Nous y voilà, dit Eddie presque en un murmure, contemplant cette porte qui simplement se dressait, là, ses gonds solidaires de quelques charnières invisibles, entre un monde et un autre. Entre un univers et un autre. Elle se dressait là, délivrant son message gravé, aussi réel que le roc, étrange comme la clarté des étoiles.
Oui, nous y voilà.
Le cas ?
Le cas.
C'est là que tu vas tirer ta deuxième carte ?
On dirait.
Le pistolero sut ce qu'Eddie avait en tête alors qu'Eddie lui-même l'ignorait encore. Il le vit faire alors qu'Eddie se croyait encore immobile. Il aurait pu se retourner et casser le bras d'Eddie en 2 points avant qu'Eddie ait su ce qui lui arrivait, mais il ne fit rien.
Il laissa Eddie subtiliser le revolver de son étui droit. C'était la première fois qu'il se laissait prendre une de ses armes sans en avoir au préalable fait l'offre. Pourtant, il s'abstint de tout geste pour l'en empêcher, se tourna simplement vers lui et le regarda, un regard tranquille et même empreint de douceur. Eddie avait le teint livide, les traits creusés, le blanc des yeux qui faisait tout le tour de l'iris. Il tenait à deux mains le lourd revolver, mais le canon n'en flottait pas moins, incapable de se fixer sur sa cible. « Ouvre-la » dit-il.
« Tu es en train de faire une bêtise. » Sa voix était aussi douce que son regard. « Ni toi, ni moi n'avons la moindre idée de ce qu'il y a derrière cette porte. Rien ne dit qu'elle donne sur ton univers, à plus forte raison sur ton monde. Pour ce que nous en savons, la Dame d'Ombre peut très bien être dotée de 8 yeux et de 9 bras, comme Shiva. En admettant même que cette porte s'ouvre sur ton monde, ce peut être très longtemps avant ta naissance, ou bien après ta mort. » Eddie eut un sourire crispé.
« Tu veux que je te dise ? Je suis prêt à échanger le poulet aux hormones et les congés payés sur une plage merdique contre ce qu'il y a derrière la porte numéro 2. »«
Je ne comprends. »«
Je sais que tu ne comprends pas. Aucune importance. Ouvre cette putain de porte !»
Le pistolero fit non de la tête. Ils étaient là, dans la claire lumière du petit matin, la porte projetant son ombre oblique vers la mer à marée basse.
« Ouvre !»
hurla Eddie. « J'y vais avec toi. Tu piges ? Je t'accompagne. »«
Ça ne veut pas dire que je vais rester là-bas. Je reviendrai peut-être. En fait, il y a même de grandes chances pour que je revienne. Je te dois bien ça. T'as toujours été réglo avec moi, j'en ai conscience, ne t'inquiète pas. Il y a simplement que pendant que tu t'occuperas de cette nana d'ombre, je filerai au plus proche Chicken Delight et je m'y prendrai un truc à emporter. Je crois que le modèle familial de 30 croquettes ira pour commencer. »
« Tu ne bougeras pas d'ici. »
« Tu t'imagines peut-être que ce sont des paroles en l'air ?»
La voix d'Eddie avait grimpé dans les aigus. Il était à bout. Le pistolero avait presque l'impression de le voir entièrement tourné vers les profondeurs instables de sa propre damnation. Le pouce du jeune homme commença d'amener au bandé l'antique chien du revolver. Le vent était tombé avec le point du jour et le retrait des flots, et le clic du chien passant au camp d'arrêt se fit nettement entendre.
« Tu n'as qu'à essayer !»«
C'est bien ce que je compte faire. »«
Je te descends !»
hurla Eddie.
Le cas, répondit tranquillement le pistolero, et il se tourna vers la porte. Sa main se tendait vers la poignée, mais son cœur était dans l'attente de voir s'il allait vivre ou mourir. Le cas.